Radio Kapi.
En entame de cette édition du journal, c'est cette mobilisation du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et appelle au calme et à la vigilance en rapport avec les événements de Butembo. C'était lors du Conseil des ministres présidé hier vendredi. À suivre aussi dans ce journal, c'est cette préoccupation du chef de l'État quant au bruit des différents bancs syndicales appelant à des initiatives de grève. Félix Tshisekedi exhorte le gouvernement à privilégier le dialogue. Et en fin de cette édition, Teresa Blasi Marti, chef du projet de la paix au sein de la coopération internationale allemande GIZ, sera notre invitée. C'est pour parler de la formation que cette coopération a initiée à l'intention des professionnels des médias à Goma. Fidèles auditeurs, merci de la confiance que vous ne cessez de nous accorder pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Ivan Lutumba au micro pour la présentation de ce journal. La situation sécuritaire tendue à Butembo hier vendredi à la suite d'un regain de violence contre la MONUSCO a aussi été abordée au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue hier à Kinshasa. Le président de la République a dénoncé l'attaque dont les policiers ont été l'objet hier à Butembo de la part des présumés Mai Mai. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi appelé la population au calme tout en instruisant les autorités à protéger le personnel de la MONUSCO congolais comme expatriés afin de leur permettre de faire correctement leur travail. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, extrait choisi par Alain Hirung.
Avant d'entamer sa communication, le président de la République, chef de l'État, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Butembo, consécutive à un regain de violence contre la MONUSCO. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Mai Mai et autres victimes. Attaque qui a conduit à la mort de 4 vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la MONUSCO, aussi bien congolais qu'étranger, pour faciliter la mission de cette organisation. Le président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïndomé entre les communautés Yaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire.
Pour sa part, la MONUSCO condamne vigoureusement le regain de violence à Butembo et exprime sa solidarité aux autorités congolaises à la suite de l'assassinat d'agents des forces de défense, de sécurité et de la population civile dans la ville. C'est ce qu'indique un communiqué publié hier vendredi 12 août. La mission est extrêmement préoccupée par l'hostilité grandissante, les menaces contre la population, les agents assermentés et le personnel des Nations Unies. Elle déplore également les nombreux actes de vandalisme constatés sur place, indique le communiqué. La MONUSCO appelle à l'apaisement et à la responsabilité de tous les acteurs politiques et de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et les populations locales pour le rétablissement de la loi et de l'ordre à Butembo. La mission onusienne réitère sa détermination à assurer son mandat de protection des civils et de soutien aux forces de défense et de sécurité congolaises. Nord Kivu, cela fait 2 mois ce 13 août depuis que la cité de Bunagana est occupée par les rebelles du M23. Bunagana est située à plus de 100 km au nord-est de Goma, groupement de Djomba, en territoire de Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda. 2 mois après cette occupation, la société civile et les autorités locales de Rutshuru se disent inquiets de voir que la rébellion consolide sa présence dans cette région. Notre source indique que la rébellion a déjà installé une administration parallèle où elle a nommé ses dirigeants et fait payer des taxes mensuelles à quelques habitants qui ont résisté de fuir. Ces animateurs réitèrent leur appel au gouvernement de tout déployer pour chasser ces rebelles dans cette région afin de permettre à des milliers de déplacés éparpillés et qui sont en détresse de retourner dans leur village. Notons que Bunagana était un poste douanier important pour les recettes de la province. Parlons de la Journée internationale de la jeunesse à Beni, journée qui a été célébrée hier dans un culte d'action de grâce dans le sanctuaire catholique de Tamembe où une centaine de jeunes, les autorités de la ville, les notables et les élus se sont réunis pour réfléchir ensemble sur la thématique choisie au niveau local pour la célébration de cette journée. Marc Marofimbo, reportage.
Je suis jeune de Beni, je m'applique pour le retour de la paix dans ma ville et j'entreprends pour la renaissance économique de la communauté. C'est la thématique autour de laquelle ces jeunes ainsi que leurs élus et autorités de la place ont réfléchi. réfléchi pour la journée. Au président du conseil urbain de la jeunesse de Beni d'interpeller ses pairs sur le sens de leur engagement pour le retour de la paix. Maître Dalzo Mikundi.
Nous voudrions obtenir l'engagement de tous les jeunes de Beni, notamment se désolidariser des ADEF et des Maïmaï, d'abandonner les antivaleurs, de collaborer avec les autorités légalement établies, de dénoncer tout ennemi de la ville, même si ce serait votre père.
Le maire de la ville de Beni a appelé ses jeunes à être déterminés pour le retour de la paix dans la région. Le commissaire supérieur principal, Narcisse Kachale Mouteba.
Ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, demain, vous allez les récolter. Je vous dis que vous êtes les acteurs de la paix. Un jour, cette ville parlera de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Soyons tous déterminés pour que la paix revienne dans cette ville.
Des activités similaires de réflexion ont été organisées à Mabalako et Eringeti, où les jeunes ont réfléchi également sur la part de la jeunesse dans le rétablissement de la paix en territoire de Beni. Une activité qui s'est soldée par une rencontre amicale de football entre les services de sécurité et la jeunesse d'Eringeti. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Le président de la République se dit préoccupé par des bruits des grèves initiées dans plusieurs secteurs par les bancs syndicales à cause notamment de la non-application de certains accords pourtant agréés. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Il a exhorté le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et de dialogue avec les différents secteurs concernés. On écoute une fois de plus à cet effet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, extrait choisi par Alain Hirung.
Il a exhorté de ce fait le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et des dialogues avec les différents secteurs sociaux en vue de s'assurer que la sérénité règne dans les secteurs aussi bien de l'enseignement dans la perspective de la rentrée que dans les secteurs de la santé. Pour les sous-secteurs de l'enseignement primaire particulièrement, le président de la République tient à encourager les processus d'évaluation de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicales et de tout mettre en œuvre pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire. Le monde universitaire, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, est aussi concerné par ces discussions. Au sujet du secteur de la santé, le président de la République a formulé la même recommandation, à savoir le maintien du dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour que ces secteurs ne soient d'aucune manière affectés par les mouvements des grèves.
Au Congo central, le préfet de l'Institut d'Isengomoka de la sous-division Banzangongo 1 vient d'être suspendu de ses fonctions. Il lui est reproché d'avoir monnayé à 10 000 francs congolais les inscriptions par élève alors que les inscriptions sont gratuites conformément aux dispositions pratiques édictées par le secrétaire général de l'EPST et relayées par le directeur de la province éducationnelle Congo central 2 pour une rentrée scolaire favorable apaisée. Le directeur de la province éducationnelle Congo Central 2, qui a validé cette suspension, indique que sa décision est un signal fort marquant la fin du règne des antivaleurs dans le sous-secteur de l'enseignement. Jean Tshisekedi Kabasele met en garde d'autres récalcitrants. Les explications avec Nana Plurich Mambou.
L'information sur les monnayages de l'équivalence en francs congolais de 5 dollars des inscriptions par élève, pour lesquels le préfet de l'Institut de Sengomoka est suspendu de ses fonctions, est arrivée aux oreilles de Jean Tshisekedi Kabasele, prophète du Congo Central 2, grâce à ses coordonnées téléphoniques qu'il avait données aux parents et élèves lors de ses sorties médiatiques. Les parents qui ont dénoncé ces faits ont brandi toutes les preuves de ces monnayages. Selon lui, le préfet de l'Institut du Sengomoka a foulé aux pieds les dispositions arrêtées par le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, notamment en ce qui concerne la gratuité des inscriptions dans les écoles pour l'année scolaire 2022-2023, laquelle année il veut favorable pour les parents de toutes les bourses. Pour les prophètes du Congo Central 2, la décision de les suspendre doit prouver que le train du changement est déjà en marche et les antivaleurs doivent être mis de côté. Jean Tshisekedi Kabasele.
Je peux tirer à l'oreille le reste des préfets qui ne veulent pas comprendre que le train est déjà en marche. Aujourd'hui, c'est lui. Il y a déjà des autres qui sont déjà dans des visères de notre stylo rouge. Nous ne cesserons jamais à décourager les antivaleurs dans notre sous-secteur.
Une action disciplinaire est ouverte en son encontre. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis cette autre nouvelle. À la 62e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 15 juillet dernier, le gouvernement avait adopté des mesures concernant le rabattement à l'importation et à l'exportation de certaines taxes. Le mercredi 10 août dernier, la commission ad hoc mise sur pied à cet effet a fait sa restitution au ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Dans une déclaration à Radio Okapi ce samedi, professeur Henri Limbaka, conseiller au ministère du Commerce extérieur, affirme que ses travaux se sont bien déroulés. Il en donne quelques explications au micro de Alain Irung.
Ces travaux ont concerné les taxes pour lesquelles le gouvernement a pris des décisions en vue de rendre la RDC compétitive au niveau du commerce international et de pouvoir assurer un bon pouvoir d'achat au niveau interne. Et donc, après réunion avec les différentes structures, services concernés, nous sommes arrivés à des décisions adoptées par tout le monde de baisser des taxes et ces propositions adoptées sont coulées dans un tableau que nous allons présenter à son Excellence Monsieur le ministre du Commerce qui à son tour en fera rapport au gouvernement et demandera à tous les ministres sectoriels concernés par les décisions de pouvoir prendre des actes en vue que ces décisions soient mises en application.
Dans la province du Maniema, c'est depuis 2021 que la coopération allemande GIZ intervient dans le territoire de Pangui avec son projet PIRED dans son programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts BGF. C'est pour contribuer à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts que la GIZ appuie l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire par les communautés locales des terroirs et les cartes participatives. La province du Maniema constitue la première province en RDC à produire le plan simple d'aménagement du territoire conformément au guide des zonages participatifs dans le secteur des BIA, groupements Meya et Djoua en territoire des Pangui. Ceci s'est déroulé dans le groupement Meya Village, Mambwe et Kindikimozi. Florence Kizalunga.
Le territoire de Pangui est l'un des territoires de la province du Maniema où la dégradation des forêts est très avancée. Ceci à cause de l'utilisation abusive des forêts et des ressources naturelles, affirment les experts. Le plan simple d'aménagement du territoire permet d'aider la communauté à bien gérer leurs terres en effectuant de façon harmonieuse des activités dans des zones bien précises dans le but de protéger les forêts et garantir leurs ressources naturelles aux générations futures. Le plan simple d'aménagement du territoire comprend deux parties dont la première montre l'existant dans le milieu obtenu grâce à la cartographie participative et la deuxième partie montre les affectations futures des espaces en vue d'un développement durable et gestion rationnelle des ressources. Aussi, les cartes participatives aident la population à bien faire la délimitation en vue de résoudre les conflits fonciers. Depuis Pangui, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, perturbation dans la desserte en eau potable à Mbujimayi depuis le début de la semaine. Comme conséquence, plusieurs quartiers n'ont pas été desservis en eau potable. Les femmes ménagères sillonnent dans les rues avec des bassins à la recherche de l'eau potable. Un bidon de 20 litres d'eau potable qui se vendait à 500 francs congolais sur la ville a doublé de prix. Il se vend désormais à 1000 francs congolais. À la direction provinciale de la régie des eaux, on parle des trois problèmes majeurs qui perturbent actuellement la desserte en eau à Mbujimayi. Son directeur provincial Didier Claude Mboudilelo explique ses difficultés au micro d'Esther Ndalafina.
Les difficultés d'un fournisseur d'énergie, il n'applique qu'une machine qui ne donne que 1000 kilowatts. Et il y a aussi son exploitant là qui a besoin de son énergie au polygone. Donc il n'y a plus rien pour nous. De deux, il y a une mauvaise coïncidence avec la rupture de stock. On attendait un grand stock, mais avec cinq, il y avait un peu de petits problèmes d'administration. Donc c'est aujourd'hui peut-être qu'on va avoir un grand stock. Et de trois, il y a des petites pannes, hein, c'est notre groupe électrogène. Tout ça combiné, ça fait que la situation de la SET s'est détériorée. Mais bon, nous avons déjà réparé les pannes sur notre groupe électrogène. Et aujourd'hui, nous allons recevoir 20 000 litres de gasoil. Donc, nous allons sûrement stabiliser la situation. Mais il faut noter que nous avons toujours des installations vieilles et les travaux sont en cours. Donc, en fait, des solutions viennent. Maintenant, nous tous, nous devons gérer la transition. Et pendant qu'on est en train de construire, tout réhabiliter, il faut essayer de gérer l'existant et donner de l'eau à la population.
Actualité internationale.
Le Mali a annoncé vendredi avoir réglé l'intégralité des impayés de sa dette causée par les sanctions qui lui étaient imposées par les États ouest-africains après deux coups d'État dans ce pays. Le pays ouest-africain n'a pu, pendant les six mois qu'ont duré ces sanctions entre janvier et juillet, régler le service de la dette, a indiqué le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué. L'État a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées après la levée le 3 juillet des sanctions de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, selon ce communiqué qui détaille l'apurement par le Trésor public. Le président du Burkina Faso, renversé par un coup d'État en janvier, Roch Marc Christian Kabore, a rencontré vendredi à Abidjan le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Cette rencontre privée s'est tenue au domicile du président Ouattara et ni lui ni Roch Marc Christian Kabore n'ont fait de déclarations, selon cette source. L'ex-président Kabore est arrivé jeudi soir à Abidjan en provenance de Ouagadougou et devait se rendre vendredi à Dubaï pour raisons médicales, avait indiqué jeudi son entourage.
L'invité.
Nous recevons comme invité Teresa Blasi Marti, chef du projet de la paix au sein de la coopération internationale allemande GIZ. Elle nous parle de la formation que son institution a organisée à l'intention des professionnels des médias à Goma. Madame Teresa Blasi s'entretient avec Mathieu Ilunga Chambouy.
Madame Teresa Blasi Marti, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous avez pensé organiser une rencontre ou une formation à l'intention des journalistes?
Nous sommes un projet que nous appuyons des initiatives locales de promotion de la paix sensible au genre. Et parmi nos différents volets, un volet c'est le journalisme de paix. Et pour nous, c'était important de promouvoir un journalisme professionnel, indépendant et objectif qui est proche des besoins de la population. Et dans ce cadre, nous avons réalisé déjà plusieurs formations de journalistes ici à l'est de la RDC.
Alors, quel genre maintenant de formation que vous allez donner à ces journalistes?
C'est un atelier spécifique sur le journalisme d'investigation. Parmi d'autres formations, était revenu qu'il y avait un besoin d'avoir un atelier de formation spécifique aussi sur approfondi sur le journalisme d'investigation. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes cette semaine ici.
Madame Teresia, est-ce que vous avez constaté des failles ou bien c'est à partir d'un constat que vous vous êtes dit il faut organiser une formation sur l'investigation des journalistes?
C'est surtout promouvoir un journalisme professionnel, non? Et c'est dans ces cadres que nous sommes en train d'organiser plusieurs formations approfondies et pendant cette période c'est sur le journalisme d'investigation.
Alors, le journalisme d'investigation, vous allez vous atteler sur quels aspects ou sur quoi les contenus de cette formation, même sur l'investigation des journalistes?
On a commencé avec les différents genres journalistiques. On va continuer avec une introduction au journalisme d'investigation, avec la formulation d'hypothèses, la recherche de sujets, des exercices pratiques, avec un formateur très expérimenté dans ces sujets.
Mais pourquoi vous avez vraiment eu l'envie de donner la formation sur l'investigation des journalistes, mais à Goma?
C'est parce que notre projet est au Nord Kivu et Sud Kivu, lié pour les journalistes du Nord Kivu et l'Ituri. Et après aussi, on va réaliser un autre atelier au Sud Kivu aussi.
Vous visez quoi en donnant cette formation aux journalistes sur l'investigation?
Nous visons de professionnaliser encore plus, non, de promouvoir l'excellence de professionnels des médias, parce que c'est pour nous, c'est clair que les journalistes jouent un rôle très important dans la société, sont les sources d'information pour la population, et les journalistes peuvent aussi agir comme des acteurs de changement pour la paix ici à l'est de la RDC.
Alors, vous pensez qu'avec le temps imparti, ils seront à mesure d'accumuler la matière dont vous avez l'intention de leur donner?
Ça, c'est un début. D'abord, on commence avec 5 jours de formation. Et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter ici, non? Ça, c'est un début. Et après, les journalistes vont continuer avec ce travail. Même l'idée, c'est de faire un réseautage, non, des différents professionnels qui travaillent dans ce genre de sujets. C'est un début.
Ah oui, un début, mais vous avez fait les choix pour certains journalistes, mais il y en a nombreux. Qu'est-ce que vous allez faire pour que cette formation puisse atteindre les autres.
Ça va pas s'arrêter ici, non? Comme je vous dis, on a commencé avec certains journalistes, hommes et femmes, bien sûr, et on va continuer dans l'avenir. Les projets propres continuent jusqu'à la fin de 2024, comme ça vous voyez que nous avons encore assez de temps pour organiser plusieurs événements de renforcement des capacités, que c'est les noyaux aussi de ces projets. Cette formation est une formation pour les journalistes comme des acteurs importants dans la société, des potentiels agents de changement pour la paix, et on envisage de promouvoir un journalisme professionnel objectif et proche de la population.
Thérésia, je vous dis merci.
Et voilà qui met un terme à cette édition des journaux. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour votre sympathique attention.